et de vrais disciples qui persévèrent, qui continuent dans cette foi et qui recherchent ta parole, qui recherchent à glorifier ton nom. Donne-nous de rechercher la vérité à mettre en pratique dans nos vies, à te laisser guider nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous avertis aussi pour les temps de la fin et nous voulons être des gens éveillés, des gens de la dernière heure qui prêtent attention aux paroles qui s'accomplissent et qui vont s'accomplir, qui s'accompliront. Nous te remercions, nous ne voulons pas douter, nous ne voulons pas être dans la crainte parce que ceux que tu as rachetés sont dans ta main. Merci Seigneur. Nous voulons croire sans voir. Ta parole nous montre avec Thomas que c'est vrai. Cesse de douter, tu as dit à Thomas, et crois. Et heureux ceux qui auront cru sans voir. Merci Seigneur, nous voulons croire ta parole parce que tes prophéties, tes paroles s'accomplissent toujours. Merci Seigneur de bénir nos frères et sœurs qui viennent dans ce lieu, qu'ils soient richement bénis, ce soit une soirée bénie, couronnée de ta grâce et de ta faveur. Bénis ton serviteur ce soir, le pasteur Williams, et chacun de nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ta parole. Tu puisses faire une œuvre nouvelle. Que cette église s'épanouisse, soit une église de prière, d'intercession, de réveil, s'attendant à ton retour. Merci Seigneur. Merci Jésus de faire ton œuvre. Au nom merveilleux qui est le tien. Merci Père. Alors, nous allons chanter le premier chant, si vous voulez bien avec moi. Abrite-moi sous tes ailes. Alors on pourrait peut-être se lever, c'est possible?
Abrite-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Jésus, ce matin, il m'a donné force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Amen. Attire-moi à toi.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir. je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
Pour louer le Seigneur quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Nous voulons compter sur toi, Seigneur, nous appuyer sur toi, rechercher ta face et ta force. Seigneur, merci Jésus. Nous voulons être des David. Seigneur, nous voulons combattre le bon combat de la foi, comme Paul nous l'indique. Nous voulons être plus forts que toute l'adversité qui peut venir contre nous. Nous voulons demeurer fidèles. Dans les petites choses, donne-nous d'être fidèles. Seigneur, merci parce que tu veux une église fidèle, une église qui recherche la vérité, qui combat le bon combat, qui intercède, qui prie, qui met en pratique les œuvres bonnes d'avant, qui sont préparées d'avance, les œuvres d'amour. Donne-nous d'œuvrer et de ne pas nous lasser. De continuer à te glorifier. Sois élevé, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons rechercher. C'est toi que nous voulons glorifier ce soir. Béni sois-tu. Tu nous as sauvés, Seigneur, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Et de la chair que nous sommes écrits dans les cieux, c'est de la volonté de Dieu. Nous avons confessé ton nom. Tu es venu nous parler. Tu as manifesté ton amour et nous l'avons reçu. Te disons merci, Seigneur. Merci de bénir cette assemblée. Que plusieurs puissent louer le Seigneur, c'est quelques instants.
Thank you. de garder tout ce monde, que tous ces âmes fatiguent, de garder vraiment le monde. Merci Seigneur, de remplir de la puissance de ton Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Merci Seigneur.
La souffrance, la maladie et la fatigue, Seigneur, elles sont venues pour nous donner la parole. Je te prie de vous bénir, Seigneur, continue.
Merci Père, merci Seigneur Père. Alléluia Jésus.
Père.
Amen, merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Sois glorifié Jésus. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Oui Seigneur. Oui. Jésus. Amen. Amen. Oui, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Père. Oui, Seigneur, remplis-le, ton Saint-Esprit, remplis-le de force. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Soutiens-le, Père. Oui, Jésus. Amen. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Oui, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Oui, Jésus. Amen. Et Père, fortifie-le. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Père. Oui. Oui, Jésus. Merci, Père. Bénéfice de ta grâce. Merci, Jésus. Amen. Oui, Père. Oui, Jésus. Merci Seigneur. Oui Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Amen. Oui Jésus. Amen. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oui Père. Merci Jésus. Amen. Merci Père. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais laisser le pasteur Williams y rapporter, je ne sais plus laquelle, il y en a 10, 11, 12, 13 ou 14, plus. Oui, c'est la 15e, c'est la 13e étude, je pense.
Merci. 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 Merci.
Bien, bonsoir, frères et sœurs. Comme toujours, c'est une joie d'être avec vous. On ne s'est plus vu, depuis 2 mois déjà. Le temps passe vite. Entre-temps, on a explosé Zaventem, on a bombé le métro, et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Quand on étudie le livre de l'Apocalypse, on sait ce qui se passe, n'est-ce pas? Nous sommes dans les temps de la fin, et nos leaders peuvent dire que ça va aller mieux. Quand on lit la Bible, on n'a pas l'impression qu'il va aller mieux. Au contraire, mais pour les enfants de Dieu, nous n'avons pas peur, parce que nous savons que tout ce qui se passe, c'était prédit, et c'était prévu, et la prophétie s'accomplit. Nous sommes entrés la dernière fois dans le 15e chapitre de l'Apocalypse. Comme c'était il y a 2 mois, je propose de lire quelques versets au début du chapitre pour nous remettre un peu dans le thème. Donc, Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient la cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Nous voyons les victorieux devant le trône de Dieu au ciel, et ils chantent. Vous aimez chanter? Et vous êtes conseillé d'aimer à chanter, parce que pendant l'éternité, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter. Donc si vous n'aimez pas chanter, réfléchissez bien avant d'aller au ciel, n'est-ce pas? Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Moïse représente la loi. L'agneau, Jésus, représente la grâce. Et on a toujours chanté. Le peuple de Dieu a toujours chanté. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté. Jésus a chanté après le repas de Pâques. Et le texte de ce que ces victorieux chantent nous est donné. Pas la musique. C'est dommage. On aurait aimé la partiture. Mais on n'a que le texte. Il faut attendre au ciel pour avoir la mélodie. Loi et grâce, équilibre. Et qu'est-ce qu'il chante? Tes œuvres sont grandes et admirables. Quand nous contemplons les œuvres de Dieu, elles sont grandes et admirables, n'est-ce pas? Psaume 139, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Et Job dit, « Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. » La science des hommes ne pénètre pas les miracles de Dieu, ne comprend pas les miracles de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de comprendre les miracles? Non, faut les croire, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de comprendre, on a besoin de croire. Et puis il chante, Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que nous croyons que Dieu est Tout-Puissant? Amen. Dieu s'appelle Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Quand Dieu se révèle à Jacob, après qu'il a qu'il ait lutté toute la nuit avec l'ange, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et les rois sortiront de tes reins. Dieu dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Job dit, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Dans les psaumes, celui qui demeure tout sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Marie, la maman de Jésus, elle dit, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et comme nous l'avons vu tout au début du livre de l'Apocalypse, quand Jésus s'introduit lui-même, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est notre Dieu. Aucun autre soi-disant Dieu n'est tout-puissant. Il n'est même pas puissant. Certainement pas tout-puissant. Si Dieu n'était pas tout-puissant, il ne serait pas Dieu. N'est-ce pas? Notre Dieu, le concept que nous avons, l'idée que nous avons de Dieu, exige qu'il soit tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, tout-puissant? Moi, je suis pas théologien, alors je vais vous dire ce que ça veut dire en termes de laïc. Dieu tout-puissant veut dire, il s'est fait tout. N'est-ce pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a certaines choses que Dieu ne sait pas faire. Oh là, là, je vois vos visages, enfin je vous vois pas bien. Mais quand on est prédicateur, on est un tout petit peu télépathique, n'est-ce pas? On lit les pensées. Et quand je dis, Dieu n'est pas tout à fait tout puissant, je lis les pensées. Qu'est-ce qu'il dit là? Fausse doctrine. Non, il y a certaines choses que Dieu ne sait pas faire. Il ne sait pas mentir. Par exemple, il ne sait même pas faire marche arrière. Ça, c'est dommage, hein? J'aimerais qu'il fasse marche arrière sur certains domaines de ma vie. On pourrait fermer ça, frère, ça aveugle un peu. Je vous vois mieux sans la lumière. Ça, c'est mieux. Pour vous, peut-être pas. Ah, ça, c'est peut-être, oui. Essayons. Ça va. Ça va? Merci. Merci, frère. C'est bien. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, et dans tous les abîmes. Jésus dit, à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu Tout-Puissant. Combien de cantiques est-ce que ce chant n'a pas inspiré? Un de mes favoris, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. C'est inspiré de ce chant qu'on chante au ciel, déjà. Vous savez bien que nos chants ici, sur la terre, et nous avons dans nos églises des gens qui savent bien chanter, mais ce n'est qu'une répétition du chant au ciel, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant. Même quand on le met en doute, le roi Nebuchadnezzar, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il suggère que Dieu n'est pas tout puissant. Mais vous qui connaissez l'histoire savent que Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de sa main. Tout puissant. Tout puissant sur la terre, tout puissant dans l'univers, les lieux célestes, tout puissant sur l'homme et tout puissant sur le diable. Ça, c'est notre Dieu. Tes voies sont justes et véritables. Ça, c'est aussi chanté à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Et miséricorde, miséricordieux dans toutes ses œuvres. Toutes ses voies sont justes. Il est juste et droit. Nous croyons ça, oui? Et là, nous voyons encore une fois la différence entre croire et comprendre, parce que nous le croyons. Nous croyons que ses voies sont toujours justes. Mais est-ce que vous êtes comme moi, parfois, que vous dites, je ne comprends pas toujours ses voies? Hein? Quand, par exemple, Dieu laisse mourir un juste. Je crois que Dieu est juste, mais je comprends pas pourquoi il ne le guérit pas. Hein? On arrive parfois à des situations pareilles, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de nous-mêmes, il y a un verset qui est important. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Un titre roi des nations qui n'apparaît qu'encore une seule fois dans toute la Bible, dans le livre de Jérémie, qui ne te craindrait, roi des nations. C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Dieu règne sur toutes les nations. Et à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Et tous les rois se prosterneront devant lui. Et toutes les nations le serviront. Et toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Je vais revenir là sur ce sujet dans un instant. Parce que, comme j'ai dit il y a un instant, on croit, mais on ne comprend pas toujours. Je ne vais pas essayer de donner une étude biblique qui donnerait toutes les réponses à ces questions-là, mais je voudrais quand même parler d'un aspect là-dessus, qui aussi revient dans ce chapitre. Mais avant cela, le verset 5 introduit le dernier des trois séries de jugements, dont deux nous les avons déjà commentés dans le livre de l'Apocalypse, le dernier série de sept jugements. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. C'est pas la première fois que nous voyons le temple céleste ouvert. Déjà au chapitre 11, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Mais maintenant, quand Jean regarde de nouveau le temple ouvert au ciel, il ne regarde pas le temple dans son entièreté. Il regarde juste une partie du temple. Son attention est attirée maintenant sur le tabernacle du témoignage, c'est-à-dire le Saint des Saints. Cette partie du temple qui contenait l'arche de l'Alliance, qui représente, qui témoigne de la présence de Dieu parmi son peuple. et de son alliance avec son peuple. La Bible dit les Lévites camperont autour du temple du tabernacle du témoignage. Et Étienne dit nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Ça c'est vrai. Mais Jean, qui le voit maintenant au ciel, ne l'a jamais vu sur la terre. Pourquoi pas? Parce qu'au temps de la Bible, il était défendu à tous, sauf le souverain sacrificateur, d'entrer dans le Saint des Saints. Et lui, il ne pouvait entrer qu'une fois par an, avec le sang de sacrifice pour les péchés du peuple. Le Saint des Saints était séparé du lieu saint par le voile triplement épais. Mais quand Jésus a crié « Tout est accompli » à Golgotha de la croix, le jour de Vendredi Saint, à 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire au moment même où le souverain sacrificateur, dans le temple à quelques centaines de mètres de là, de Golgotha, le souverain sacrificateur, au moment où il entre, derrière ce voile triplement épais, Jésus-Christ, à Golgotha, tout est accompli, et le voile se déchire, d'en haut jusqu'en bas. Et dorénavant, par le sang de Jésus, le temple est ouvert, non seulement au souverain sacrificateur un jour par an, mais à tout le monde, y compris les Wallons, tous les jours, 24/7. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Les jugements des 7 coupes d'or vont suivre. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les jugements des 7 coupes d'or et les jugements des 7 trompettes qui étaient la deuxième série de 7 jugements. Les ressemblances sont tellement fortes que certains pensent qu'il s'agit d'une répétition seulement, que Jean répète ce qu'il a vu avec les trompettes et maintenant il voit ça dans les coupes. Nous allons voir que, bien qu'il y ait des ressemblances, il y a aussi des grandes différences. Il ne s'agit pas d'une répétition du deuxième série, mais bien troisième série. Et la différence principale, c'est que, si vous vous rappelez, les jugements des trompettes n'affectaient chaque fois qu'une partie de la terre, tandis que les jugements des coupes affectent toute la terre. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, les vêtements de lin pur identifient les saints. Tu as hasard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Lors de sa transfiguration, Jésus fut transfiguré devant ses disciples, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ces 7 anges ont des vêtements blancs, vêtement de fin lin, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et le fin lin, dit la Bible, ce sont les œuvres justes des saints. La ceinture d'or autour de la poitrine. Qui porte une ceinture? Vous le portez où? Si je le porterais à ma poitrine, je perdrais mon pantalon. Qu'est-ce que signifie une ceinture portée à la poitrine? Eh bien, du temps de la Bible, ça signifie un juge. Un juge portait une ceinture à la poitrine. Je crois les maires en France, ils font ça aussi. C'est pas une ceinture d'or. Mais c'est pas pour... En Belgique aussi? Bon, voilà. On apprend tous les jours. Le bourgmestre qui m'a marié il y a des années, il avait comme ça une ceinture. Mais il était un peu... Peut-être que... si je me rappelle bien. Mais c'est un badge, n'est-ce pas? C'est un signe. Ça montre que nous avons affaire avec un juge. Et bien sûr, ce qui suit, ce sont des jugements. Jean écrit tout au début de l'Apocalypse, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Nous entrons ici de nouveau dans une expression qui est étrange dans le Nouveau Testament. Un Dieu qui est colérique. Dans l'Ancien Testament, on peut dire, bon, on comprend. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais ici, on parle de la colère de Dieu. Un des quatre êtres vivants, il ne nous a pas dit lequel, mais nous les avons déjà rencontrés. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier, être vivant semblable à un lion. Le second, semblable à un veau. Le troisième, à la face d'un homme. Le quatrième, semblable à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants, chacun six ailes, sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est et qui est et qui vient. Nous avons vu quand nous avons regardé cela au chapitre 4, que ces quatre êtres vivants représentent le peuple d'Israël selon les bannières des quatre tribus têtes qui devançaient chaque groupe de trois tribus dans le désert. Le lion, c'est Juda. Le veau, c'est Éphraïm. L'homme, c'est Ruben. Et l'aigle, c'est Dan. Et maintenant, l'un des quatre êtres vivants donne aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Déjà dans ce chapitre, nous avons vu Dieu le Tout-Puissant. Nous avons vu Dieu le Roi des Nations. Mais maintenant, nous voyons Dieu qui vit au siècle des siècles. Dieu éternel. L'Éternel règne à jamais. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ta domination subsiste dans tous les âges. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était qui vient le Tout-Puissant. Dieu est éternel. Est-ce que ça est important pour nous? Est-ce qu'il est important que pour nous de croire que Dieu est éternel? C'est essentiel, n'est-ce pas? Parce que si Dieu n'est pas éternel, quelle est notre chance d'avoir la vie éternelle? N'en a pas. Dieu est éternel. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Le temple fut rempli de la gloire de Dieu. Quand Moïse montait sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée est restée dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La même chose lors de la dédicace du temple de Salomon. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ça a dû être quelque chose, n'est-ce pas? Nous passons par parfois des moments de gloire dans l'adoration, mais c'est pas comme ça. Et un jour ce sera comme ça. Les simples bergers au champ d'Ephrata, la nuit de la naissance de Jésus, l'ont vu aussi. Un ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Le Shekinah, la gloire qui remplissait le tabernacle, qui remplissait le temple. Et si vous parlez à des Juifs orthodoxes aujourd'hui, qui prient au mur des Lamentations à Jérusalem, la seule chose qui reste du temple, et qui ne faisait pas strictement dit même partie du temple, mais les Juifs, pourquoi est-ce qu'ils aiment aller prier là? Parce qu'ils disent la gloire de Dieu repose toujours là, réside toujours là, parce que Dieu a promis à Salomon que sa gloire ne quitterait jamais ce lieu. Nous allons maintenant de nouveau plonger dans la grande tribulation. Les sept coupes, j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » La dernière série de jugements commence donc. Premièrement, le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Plusieurs idées concernant ce que ça pourrait être dans la pratique. En tout cas, il est clair que, comme tous les autres fléaux d'ailleurs, il s'agit d'un jugement. Un jugement sur ceux qui ont accepté la marque de la bête sur leur front. Certains pensent que ça doit être une maladie qui est le résultat du produit employé pour frapper les personnes de la marque de la bête. En tout cas, un ulcère malin. Certains pensent à des cancers. La Bible ne donne pas plus de précision. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous vous rappelez dans l'histoire de l'Exode, le premier fléau en Égypte, quand Moïse a changé l'eau du Nil en sang. Cela ne frappait qu'un seul fleuve dans un seul pays et pour un temps très restreint. Mais ici, la mer devint du sang. À l'Exode, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge, et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur leurs amas d'eau, elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Et Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans la fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus voir l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays de l'Égypte. Qu'est-ce que ça va être si la mer tout entière se transforme en sang? Là aussi, les experts ne savent pas s'il s'agit de tous les océans sur la planète, parce que parfois la mer se réfère à la mer Méditerranée. Mais même si ce n'est que la mer Méditerranée qui change en sang, vous imaginez, toutes les créatures dans la mer vont mourir. Des milliards de poissons en décomposition. Ça va puer, non? Et si c'est toutes les mers de la terre, quel effet sur le climat, sur le commerce? Si ce jugement continuerait longtemps, il n'y aurait plus de vie possible sur la terre. Mais ça se limite pas à la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Donc pas seulement la mer, mais aussi les fleuves et les sources d'eau. Et maintenant, nous entendons quelque chose qui est étonnant. J'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ok, maintenant toutes les sources d'eau, les mers, les fleuves, sont devenues du sang. Il n'y a plus d'eau potable. Dans ces circonstances, toute vie devient insupportable. Ça ne peut pas durer longtemps. Beaucoup de gens vont mourir. Et puis il a dit pourquoi cela est passé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. Une déclaration qui est difficile à cadrer dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Ça parle de vengeance. Vous avez versé le sang des saints, eh bien Dieu vous donne maintenant du sang à boire. C'est pas de la vengeance, ça? Dieu qui se venge? Dans l'Ancien Testament, nous lisons Dieu des vengeances, l'Éternel, Dieu des vengeances, paraît. J'exercerai de grandes vengeances en châtillant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Ouh là là.
Oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas?
Mais nous sommes dans le Nouveau. Dieu est amour. Dieu ne se venge pas. Non? Ça a l'air d'être vengeance, en tout cas, dans l'Apocalypse. Et à la fin de l'Ancien Testament, juste avant de passer au Nouveau, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans le Nouveau Testament, Dieu nous défend de nous venger. Mais il semble quand même que Dieu, qui ne change pas, se venge toujours. Dieu nous dit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. C'est dans le Nouveau Testament, ça. C'est pas dans la loi. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et ici nous lisons, ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Comment est-ce que le Dieu du Nouveau Testament, notre Dieu du Nouveau Testament, peut toujours être un Dieu de vengeance? C'est difficile, non? Vous trouvez pas? Ça correspond pas à notre idée de Dieu Nouveau Testament. Eh bien, ça dépend de comment on regarde la vengeance. Aujourd'hui, la notion de vengeance est toujours associée à la haine, à la cruauté. Mais la notion biblique et surtout la notion divine de la vengeance, comme nous avons lu dans les quelques textes que j'ai cités, ce n'est pas une explosion spontanée et fâcheuse d'irrationalité. La vengeance de Dieu cadre dans l'exécution de la justice divine. Nous comprenons ça, n'est-ce pas? Brûler un feu rouge, qu'est-ce que vous attendez? Un PV, une amende, non? Ça vous semble juste quand vous recevez le PV? Moi, je suis contre, hein? Moi, quand je reçois un PV comme ça, je dis, tous ces meurtriers qui courent libres et ils ont le temps de me envoyer une amende parce que j'ai brûlé un feu rouge. Mais ma réaction n'est pas juste.
la justice ne serait pas juste. Si on brûlait le feu rouge, on ne recevait pas de PV. Et la justice de Dieu ne serait pas juste si il n'y avait pas de punition du péché. D'accord? Et nous pouvons appeler ça la vengeance. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que un pécheur ne serait pas puni s'il ne péchait pas. C'est sa propre faute. Mais la justice de Dieu exige la punition. La grâce de Dieu veut dire qu'on peut éviter la punition. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. J'ai remarqué que ça ne marche pas avec le feu rouge. N'est-ce pas? Moi, je réagis, il y a tous ces meurtriers qui courent libres, ils auraient mieux fait de s'occuper d'eux. Mais même si je réagis tout à fait autrement, et je dis, oui, j'ai péché, je brûle le feu rouge, je crains que je finirai par payer l'amende quand même, parce que la loi ne connaît pas de grâce. La loi belge. Mais la loi de Dieu, oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rétribution. Ça veut dire tout simplement que l'amende, ça ne veut pas dire que l'amende n'est pas payée. Ça veut dire que l'amende, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Si je reçois le PV, juste le jour avant de venir à la prochaine étude biblique ici, et je reviens fâché parce que j'ai eu ce PV, et je dois payer, je sais pas moi, 100 euros. Et quelqu'un parmi vous, chrétien très très gentil, n'est-ce pas, vient vers moi et dit, frère, ce PV, donne-le-moi. Et je vous donne le papier, et vous payez l'amende. Ça veut dire que j'ai péché, mais ça ne m'a rien coûté. Mais ça ne veut pas dire que le péché ne coûte rien. Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a payé à ma place. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais le paiement doit toujours être payé. Et ce paiement est payé par le sang de Jésus à la croix de Golgotha. C'est ça l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rétribution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Mais la grâce veut dire qu'un autre a pris le prix de mes péchés, a pris ma punition sur lui. Et quand nous parlons de la vengeance du point de vue de Dieu, il faut toujours le cadrer dans ce cadre de la grâce. Pourquoi est-ce que ces punitions tombent sur les gens de la terre? Eh bien, parce qu'ils ne confessent pas leurs péchés. Ils n'admettent pas leurs péchés. Au contraire. Dieu donne aux pécheurs repentants sa grâce. Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cependant, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Il y a une parabole de Jésus que, je pense, la plupart de nous doivent connaître. Ce n'est pas long, je vais le lire, qui illustre tout cela très très bien. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un serviteur qui devait 6 000 talents. J'ai recherché combien ça vaut, 6 000 talents, en argent d'aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards d'euros. C'est même plus de votre pension, ça, n'est-ce pas? Oui, hein? Ça dépasse votre pension. 5 milliards, ce bonhomme doit. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Je me demande bien comment il allait payer tout. Bien sûr, il n'avait pas une pension belge. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. À sa place, moi, je dirais, alléluia. Je sauterai de joie. Non? 5 milliards de dettes remis. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ça fait à peu près 80 euros. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette de 5 milliards, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On n'a pas besoin de commenter ça, hein, c'est clair. Hein? La vengeance de Dieu, combinée à la grâce, veut dire que toute punition juste, tout châtiment juste, peut être évité. Mais si nous ne nous repentons pas, la justice juste de Dieu exige que la punition soit donnée, soit exécutée. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Une chaleur du soleil qui devient très intense sur la terre. Ajoutez à cela l'odeur nauséabonde que nous avons vue déjà dans les suite au fait que les eaux sont changées en sang, et alors nous comprenons que les gens gémissent sous leur souffrance. Vous avez jamais été brûlé par le soleil? Oui? Quand j'avais encore des cheveux, j'étais roux. Et les roux sont un peau sensible. Je parle d'expérience, n'est-ce pas? Et la brûlure du soleil, ça fait mal. Qu'est-ce que ça va être? Ceci n'est pas une simple petite brûlure de soleil, n'est-ce pas? Mais une chaleur terriblement intense. Les gens crient, pleurent, mais au lieu de crier à Dieu pour les sauver, ils blasphèment contre son nom. Ils refusent de se repentir. Vous savez, frères et sœurs, ceux qui n'adorent pas Dieu quand tout va bien, l'accusent quand ça va mal. J'ai entendu que c'est la faute de Dieu qu'on a explosé Zaventem. Ce n'est pas Dieu qui a explosé Zaventem. Qui est derrière ça? C'est le diable. C'est pas Dieu qui est derrière. Mais Dieu en est accusé. Parce que l'homme qui refuse d'adorer Dieu, quand tout va bien, le maudit quand les choses vont mal. Dans un certain sens, les gens qui blasphèment Dieu maintenant que la chaleur du soleil les brûle, dans un sens, ils ont raison. C'est la faute de Dieu. Ces jugements viennent de Dieu. Mais l'homme les amène sur lui-même parce que il choisit la voie du mal. Quand les 10 fléaux viennent sur l'Égypte dans l'histoire de l'Exode, quel est le résultat? Le pharaon, le cœur du pharaon, devient de plus en plus dur. Il ne se repent pas. Il ne vient pas à Dieu. Et ce serait aussi ainsi au temps de la fin. J'entends parfois, ou je lis parfois, des prophéties de grand réveil. Tout le monde va se convertir au Seigneur dans les temps de la fin. C'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. Malheureusement. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le royaume de la bête est plongé maintenant dans les ténèbres. Ces ténèbres qui s'ajoutent, n'est-ce pas, à la soif et aux brûlures. On n'aime pas les ténèbres, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne sommes pas contents que le printemps est arrivé? Le soir est maintenant plus long, on a plus de lumière, on est content, ça nous rend content, n'est-ce pas? Vous vous levez le matin, le soleil brille, les oiseaux chantent, ça fait du bien, non? Mais quand il fait noir, ça fait mal. Mon fils, le plus jeune de mes fils, il habite en Suède, et là, en hiver, à Noël, par exemple, le soleil se lève seulement vers 11 heures, et déjà à 2h30, il fait noir. Et pendant les mois de décembre, janvier et février, dans ces pays nordiques, il y a beaucoup de suicides. Les gens sont dépressifs. Et si les ténèbres s'ajoutent à tous les autres problèmes qu'ils ont, la vie va devenir si insupportable. Mais encore une fois, les gens blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. C'est quand même incroyable. Ils ne veulent pas faire marche arrière, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort, ils ne veulent pas se convertir à Dieu. Ce qui me frappe aussi, beaucoup de gens, et de nos temps, il faut pas attendre les temps de la fin, c'est valable aujourd'hui, j'avais remarqué, beaucoup de gens blasphèment Dieu, y compris des athées, qui disent ne pas croire en Dieu. Mais quand on explose Zaventem, tout d'un coup c'est la faute de Dieu. C'est frappant. Et puis nous arrivions à la sixième coupe. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ceci, c'est très intéressant, surtout à la lumière du développement actuel. Parce que nous voyons ici l'une des préparatifs, des préparations, si vous voulez, pour la bataille finale d'Armageddon. Le fleuve, l'Euphrate, sèche. C'est remarquable. L'Euphrate n'est pas un petit fleuve. C'est un fleuve de quelque 2700 kilomètres de longueur. Entre 200 mètres et 1 kilomètre de large. 3 à 10 mètres de profondeur. Et ce fleuve va sécher. Son eau tarit. Et pourquoi? Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Nous allons parler en plus de détails de la bataille d'Armageddon d'ici 2 chapitres. Mais déjà pour maintenant, il est clair que dans la bataille d'Armageddon, l'Antichrist va réunir les armées du monde pour vaincre le peuple juif et surtout la ville de Jérusalem. J'expliquerai cela en détail plus loin. Mais si l'Antichrist va réunir toutes les forces armées du monde, d'où va venir la plupart de ses soldats? Pas de l'armée belge. Je ne sais pas combien de soldats nous avons encore en Belgique, mais il paraît pas assez pour patrouiller Zaventem et Malbec, n'est-ce pas? Ils sont déjà fatigués. Hein? Qui sont les pays dans le monde moderne qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de troupes? La Chine, l'Inde, l'Iran, si vous voulez des millions et des dizaines de millions de troupes, c'est pas en Belgique qu'il faut aller les chercher. C'est dans les pays de l'autre côté de l'Euphrate. Au temps de la Bible, si on voulait transporter les troupes, ça prenait beaucoup de temps. Parce que les troupes devaient marcher. Et si les troupes du temps de la Bible, du temps de Nebuchadnezzar, du temps des Assyriens par exemple, les Médo-Perses, qui ont tous envahi Israël, certains même à plusieurs reprises, les soldats qui campaient autour de Jérusalem avaient fait au moins 1800 kilomètres à pied. Ça c'est quelque chose. De l'Euphrate jusqu'à Israël, ou jusqu'à la vallée de l'Armageddon, est à peu près 1000 kilomètres en vol d'oiseau. Mais on ne peut pas voyager en vol d'oiseau parce que c'est presque tout désertique, il n'y a pas d'eau. Alors on suit les cours d'eau, et ça veut dire qu'on doit faire un grand détour, 1800 kilomètres. Le même chemin qu'a fait Abraham. Aujourd'hui, on transporte des soldats beaucoup plus vite. D'habitude, en bateau, même en avion. Mais c'est pas possible de transporter des dizaines de millions de troupes en avion ou en bateau. Ils doivent venir par terre, n'est-ce pas? Il y a 200 ans à peu près, Napoléon a dit, quand la Chine se réveille, le monde tremblera. La Chine se réveille. De tous les fronts. Économique, politique et militaire. Et le fleuve va sécher, pour ouvrir le chemin au roi d'Orient. Et cela s'accomplit de nos jours. Il y a une route ferroviaire maintenant entre la Chine et l'Espagne, déjà achevée. Des trains de marchandises roulent déjà, pas encore des trains de passagers, ça viendra. Mais déjà des trains de marchandises roulent entre la Chine et l'Allemagne, un trajet de 13 000 kilomètres qui prend 21 jours, la moitié d'un bateau. Ils sont aussi en train de construire une route. Premier tronçon est déjà asphalté pour relier l'ouest de la Chine à l'est du Pakistan. Et cela va être prolongé jusqu'en Europe. Et aussi bien le chemin de fer que le train passe dans cette région de l'Euphrate. Quand ce chemin de fer est pleinement opérationnel et la route est finie, beaucoup de troupes peuvent être transportées pour se joindre aux armées du monde à la bataille d'Armageddon. Nous lirons dans le chapitre suivant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte, ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Pourquoi est-ce que l'Antichrist amène toutes ses armées juste pour attaquer Israël? Il y a deux versets dans le chapitre suivant que nous commenterons un peu plus en plus de détails la fois prochaine, Dieu voulant, qui montre que c'est vraiment le diable qui est derrière cela. Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il les compare à des grenouilles qui ont toujours été considérées impures, diaboliques même. Pour revenir au fléau d'Égypte, Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et la fausse trinité que nous avons déjà vue, c'est-à-dire le diable, l'antichrist et le faux prophète, sont trois esprits impurs. Ils vont envoyer leur grenouilles, leurs démons, car ce sont des esprits des démons. Et ils vont s'adresser aux chefs des nations du monde, comme des ambassadeurs de l'Antichrist, pour les convaincre d'envoyer leurs armées à la disposition de l'Antichrist pour cette bataille finale d'Armageddon. Les grenouilles ont toujours étaient regardés comme des bêtes particulièrement malpropres. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meurent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Ces grenouilles sont capables de convaincre les chefs du monde. Rassembler toutes leurs armées. Et l'Apocalypse parle du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et le but de ce rassemblement devient clair. La guerre. Le gouvernement mondial. Toutes les troupes de toute la terre contre un seul petit pays, même pas si grand que la Belgique, avec sa petite capitale, pas une grande ville à l'échelle mondiale, Jérusalem maintenant même a à peu près 1 million population grand Jérusalem, même pas si grand que Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes les armées de la terre juste pour attaquer un si petit pays et son petit capital? Parce que derrière cette dernière bataille, il y a la haine. La haine du peuple de Dieu, la haine du pays de Dieu, mais surtout la haine de Dieu lui-même, contre Dieu lui-même. Et cela amènera au dernier jugement. Armageddon veut probablement dire la montagne de Megiddo. Har veut dire montagne. Et Megiddo veut dire vers le bas. Donc c'est la montagne de Megiddo. En effet, aujourd'hui, nous ne l'appellerions pas montagne, c'est pas les Himalayas, c'est plutôt les Ardennes. C'est une colline. Mais quand même avec une vue excellente sur cette immense plaine, la seule grande plaine plate de tout le pays d'Israël. Et dans le temps ancien, on a souvent combattu sur cette plaine. Pour des armées, il leur faut une plaine, n'est-ce pas? Dans les montagnes, les armées ne savent pas combattre. Et passe par cette plaine, la route principale entre les deux grandes civilisations du temps ancien, la civilisation mésopotamienne, Irak, Iran aujourd'hui, et la civilisation égyptienne. Et c'est comme ça que les Babyloniens, Assyriens, Médo-Perses, les puissances mésopotamiennes, combattaient l'Égypte pour contrôler cette route. Parce que celui qui contrôlait cette route, en somme, avait le monde dans sa main. Et la Bible nous dit que cette dernière bataille aura lieu dans la vallée d'Armageddon. Donc cette grande plaine devant la montagne d'Armageddon. Et c'est là que les armées alliées vont s'assembler avant d'avancer sur Jérusalem à quelques dizaines de kilomètres de là. Et d'après la description du chapitre 14 que nous avons déjà lu, le champ de bataille couvrira une superficie très large, et il y aura tellement de morts que la Bible dit le sang coule jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, ça fait plus de 300 kilomètres, jusqu'aux morts des chevaux. Ça fait beaucoup de litres de sang, n'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir beaucoup de tués. La Bible dit que les Juifs auront besoin de 7 mois pour enterrer tous les cadavres. Et quand on sait que les Juifs, ils essayent d'enterrer un mort en dehors les 8 heures de sa mort, ça se passe très très vite. S'il va leur falloir 7 mois, c'est qu'il y a énormément de morts. Qui sont ces Juifs contre qui l'Antéchrist va combattre? Ce sont les Juifs qui sont restés en Israël, qui seront restés en Israël, qui ne se seront pas convertis au Seigneur, et qui seront restés en Israël et surtout à Jérusalem, et qui, au début de la grande tribulation, comme nous avons déjà vu, signe même une alliance avec l'Antichrist. Mais 3 ans et demi après, ils se rendent compte que l'Antichrist les a trompés, quand il déchire l'alliance. Et alors, il persécute les Juifs, et les Juifs résistent. Et prophète Zacharie parle de ce temps quand Dieu dit « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. Dans ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Et cette dernière bataille arrivera même jusqu'au mur de Jérusalem. Zacharie parle de la vallée de Josaphat. C'est la même vallée. Joël parle de la vallée de Josaphat. Zacharie dit en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et Joël dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Et Josaphat, c'est la même vallée. Josaphat veut dire le Seigneur juge. Je pense qu'on va s'arrêter là. La fois prochaine, on continuera et on verra ce jugement. Merci de votre attention de nouveau et que Dieu vous bénisse richement. Merci.
C'est possible de remettre la lumière? Merci. Et je vais vous demander de vous lever. On va rechanter un petit chant. Merci en tout cas, frère. C'est puissant, cette parole. C'est tellement puissant. Ces jugements qui vont arriver. Cette colère de Dieu sur l'impiété. Oui. Cette vengeance qui est tout à fait normale parce que c'est le salaire. Il y a un salaire au péché. Hein. Et quand il n'est pas donné à Jésus, forcément, ce péché devrait être jugé. Aucun péché n'entrera au ciel et le péché sera jugé. Il n'y a rien à faire. Et quel privilège de croire. Quel privilège d'appartenir à Christ. Alors, chantons de tout notre cœur, nous avons un Dieu extraordinaire qui nous aime.
Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Seigneur, merci Seigneur, parce que tu tiens l'Église entre tes mains, Seigneur. Et c'est vrai que les temps de la fin sont terribles pour ceux qui se seront éloignés, qui ne se repentiront pas de